3.3 encadrer au moins une personne dans une forme spécifique d'évangélisation ou de mission. Comme pour le résultat 3.2, les notes relatives à ce résultat ont également été rédigées par G-Life Africa. Nous avons appris précédemment que notre mission commence par le grand commandement, aimer Dieu et aimer les gens. C'est à partir d'un cœur aimant Dieu et les gens que nous nous impliquons dans la grande commission, notre mission, qui est de faire des disciples qui font des disciples qui font des disciples. Être un faiseur de disciples est la mission de tout disciple de Jésus, et pas seulement de ceux qui ont reçu une formation théologique. Le rôle des responsables est de mobiliser les mouvements de formation de disciples en alignant stratégiquement leurs églises afin de reproduire des faiseurs de disciples pour chaque personne. Nous avons également appris que les gens se trouvaient à des stades différents sur le chemin qui mène de l'incrédulité à la maturité, et que nous devions nous efforcer d'aider les individus à franchir les différentes étapes de leur développement vers l'état de Christ. Notre mission de formation de disciples est plus efficace lorsque chaque personne est ciblée en fonction de son niveau d'engagement spirituel et qu'elle est continuellement aidée à passer à l'étape suivante. Chaque disciple de Jésus doit prendre une personne, ou quelques personnes, sous sa responsabilité et l'aider à passer de l'incrédulité à la maturité. Pour être un faiseur de disciples efficace, nous devons comprendre le chemin de la formation de disciples et comment faire avancer les gens sur ce chemin. Un faiseur de disciples saint est quelqu'un qui voit les personnes qui l'encadrent devenir elles-mêmes des faiseurs de disciples. Comment pouvons-nous donc aider les gens à suivre ce chemin de formation de disciples? Sur quoi devrions-nous concentrer nos efforts de formation de disciples à chacun de ces différents niveaux d'engagement? Veuillez vous référer au tableau figurant dans vos notes détaillées. Prenons le temps d'examiner comment Jésus a centré sa mission à chacun de ses différents niveaux d'engagement. 1. Perte religieuse et non religieuse. Dès le début de son ministère, Jésus a eu un véritable cœur pour les perdus. Il a permis aux gens de s'approcher de lui, de « venir voir » sa vie. Il les a également mis au défi de « se repentir et de croire » en lui et en son message. Voici quelques points importants que nous pouvons tirer de la vie de Jésus lorsque nous formons des disciples. Jésus était relationnel. En observant la vie du Christ, nous remarquons qu'il s'est entouré de personnes. En Jean 1, 39, lorsque Jésus dit à André et aux autres disciples de « venir et de voir », il ne les invite pas à assister à un programme ou à se rendre à la synagogue. Il les invite à venir voir sa vie et à entrer en relation avec lui. Tout au long de sa vie, Jésus a mis l'accent sur les relations et non sur un programme. Il était l'ami des pécheurs. Jésus a été qualifié des « amis des pécheurs ». Pour les pharisiens, c'était une grande insulte, mais pour Jésus, cela semblait être un signe qu'il voulait porter. Lorsqu'il s'agissait de remplir sa mission de « chercher et sauver les perdus », il n'a jamais fait de la synagogue sa base, Jésus passait du temps avec les gens là où il se trouvait. Jésus a invité les gens à s'engager en leur demandant de se repentir et de croire. Les relations de Jésus étaient des relations de rédemption. Il entretenait des relations avec les gens dans le but de racheter leur âme. Jésus voulait que l'humanité soit sauvée. Il a dit lui-même que c'était la raison pour laquelle il était venu dans le monde. Le défi lancé par Jésus à l'engagement comprenait la repentance et la foi. Tous ceux qui ont été mis au défi n'ont pas suivi. Rien n'indique que le chef des riches, Luc 18:18-30, ait répondu positivement au défi de Jésus. Ceux que Jésus a rapprochés n'ont jamais hésité à partager leur foi nouvelle. André le dit à Pierre, Philippe le dit à Nathanaël, la Samaritaine le dit à son village, Lévi organise une fête avec tous ses amis pour Jésus. Tout cela s'est fait immédiatement après leur rencontre avec Jésus. 2. Les croyants. Jésus a invité les gens à « se repentir et à croire ». Mais il ne s'est pas arrêté là. Après que les gens aient choisi de croire en lui, Jésus les a poussés à s'engager plus profondément et les a appelés à « le suivre ». Jean 1:43, Luc 5:27-29. Voici quelques points importants que nous pouvons apprendre de la vie de Jésus lorsque nous formons des disciples. Jésus a recherché ceux qu'il voulait faire passer au niveau d'engagement suivant. En Jean 1:43, Jésus va chercher Philippe. Jésus n'a pas attendu que les gens lui disent qu'ils étaient prêts à passer au niveau d'engagement suivant. Il les a activement recherchés et les a poussés à s'engager plus profondément. Jésus comprenait les gens et savait qu'ils avaient besoin d'aide pour grandir spirituellement. Il savait qu'il ne suffisait pas d'inviter les gens à se repentir et à croire. Si les gens devaient persévérer dans leur foi, ils avaient besoin d'aide pour grandir. Jésus a appelé les gens à un engagement plus profond. Il n'avait pas peur de mettre les gens au défi de passer au niveau suivant. C'est ce qui ressort des versets que nous avons lus ci-dessus. Nous notons ce qui suit. Matthieu a été mis au défi de quitter sa cabine d'imposition, il a été mis au défi de poursuivre une toute nouvelle carrière, Philippe a changé ses plans. Jésus a approfondi sa relation avec ceux qui l'ont suivi. Lorsque nous examinons le mouvement de formation de disciples que Jésus a modélisé, nous constatons qu'il s'est développé sur la base de relations profondes et significatives entre Jésus et ceux qui le suivaient. Jésus passait intentionnellement du temps avec ceux qui le suivaient. Tout au long des évangiles, nous voyons Jésus et ses disciples faire la vie ensemble. Ils vivaient ensemble, mangeaient ensemble, exerçaient leur ministère ensemble. Jésus a saisi toutes les occasions de construire des relations significatives avec ses disciples et de leur enseigner ce que signifie être un disciple du Christ. Jésus a enseigné à ses disciples la volonté générale de Dieu pour leur vie. Pendant les 18 à 21 premiers mois de son ministère, bien que Jésus ait impliqué ses disciples dans le ministère, son objectif principal était d'enseigner et de modeler pour eux ce que signifiait vivre dans l'obéissance à la volonté générale du Père, qui nous sommes, être, et ce que nous vivons, faire. Jésus a transféré son caractère et ses priorités. Jésus a saisi toutes les occasions de révéler son caractère et les priorités du royaume à ceux qui le suivaient. Jésus voulait que les gens grandissent dans leur caractère, être, et établissent ses priorités, faire, dans leur vie. 3. Travailleurs. Au cours de cette phase de formation des disciples, Jésus lance à ses disciples un défi plus profond, « Suivez-moi et pêchez pour les hommes ». Au cours de cette phase de leur vie, il les pousse à aller plus loin à mesure qu'il les implique dans son ministère. Au cours de cette phase, il leur donne l'occasion d'appliquer ce qu'ils ont appris en s'impliquant davantage dans son ministère. Voici quelques points importants que nous pouvons apprendre de la vie de Jésus lorsque nous formons des disciples. Jésus a passé plus de temps avec moins de personnes. Bien qu'il soit de plus en plus populaire, il passe intentionnellement du temps avec moins de personnes. Même parmi les 12, Jésus a choisi Jacques, Jean et Pierre pour passer plus de temps avec eux. Jésus aimait les masses, mais nous le voyons faire le choix d'équiper le petit nombre pour le bien des masses. Jésus commence à passer du temps avec moins de personnes afin de les faire passer d'une compréhension de sa volonté générale à une compréhension de sa volonté spécifique pour leur vie. Jésus les appelle à des niveaux d'engagement de plus en plus élevés, Matthieu 4, Luc 5, Luc 9. Auparavant, Jésus avait mis ses disciples au défi de le suivre. Le défi qu'il leur lance maintenant les obligera à réorganiser leurs priorités afin de pouvoir le suivre plus intensément. Ce défi exigera d'eux un engagement bien plus grand, ainsi qu'un dévouement total à la tâche à accomplir. Jésus définit le but pour lequel il veut qu'ils vivent. Jésus appelle ses disciples à un objectif très clair, la raison pour laquelle il est venu sur terre. Il leur a montré que le but ultime vers lequel ils devaient tendre était de chercher et de sauver les perdus. Les disciples ont vu Jésus agir de la sorte dès leur première rencontre avec lui. Au début, Jésus a appelé ses disciples à le suivre. Maintenant, il leur demande de se joindre à lui dans son travail. Jésus leur enseigne continuellement des vérités plus profondes sur le royaume. Jésus ne cesse d'enseigner le royaume à ses disciples, souhaitant toujours qu'ils comprennent mieux ce qu'est le royaume et ce pourquoi ils doivent travailler. Jésus les inclut dans ce qu'il fait. Jusqu'à ce stade du ministère de Jésus, c'est lui qui a fait le plus gros du travail. Son objectif commence à changer maintenant, et il commence à impliquer ses disciples dans ce qu'il fait. Au début, il le fait avec eux, puis il les envoie faire ce qu'il a modelé. Jésus les appelle à être des travailleurs. Jésus constitue une équipe de ministère à partir de personnes qui sont prêtes à passer au niveau supérieur. Il y avait une distinction claire entre les travailleurs et les leaders. Tout le monde doit être un ouvrier dans le royaume, mais tout le monde ne peut pas être un leader ou un berger. Plus tard, il choisira parmi ses ouvriers ceux qui dirigeront le mouvement. 4. Faiseurs de disciples. Juste avant son arrestation, Jésus lance à ses disciples le dernier défi. Allez et portez beaucoup de fruits. Tout ce que Jésus a fait dans le cadre de son ministère a conduit à ce qu'il relâche ses disciples pour qu'ils fassent ce qu'il avait fait avec eux. Il reproduit des multiplicateurs par lesquels il poursuivra l'œuvre. Voici quelques points importants que nous pouvons apprendre de la vie de Jésus lorsque nous sommes disciples d'autres personnes. Jésus a modelé la priorité de se multiplier lui-même. Lorsque Jésus monte au ciel, il a démontré le principe de la multiplication, il a laissé une direction désignée, 12 personnes dans Luc 6, 12-13. Une force ministérielle équipée, 72 personnes dans Luc 10, 1-24. Ce groupe est passé à 120 après la mort de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit a déferlé sur Jérusalem, il a utilisé ces personnes pour influencer d'autres personnes pour le royaume, 3000 dans Actes 2, 42-47. Jésus s'attendait à ce que ses disciples poursuivent l'œuvre. Nous en trouvons la preuve dans les cinq déclarations de commission que nous trouvons dans les évangiles, Luc 24, 44-49, Jean 20, 21-23, Marc 16h15, Actes 1h08, Matthieu 28, 19-20. Lorsque nous formons des disciples, comment pouvons-nous suivre l'exemple de Jésus? Veuillez vous référer au tableau figurant dans vos notes détaillées. Il est important de noter le processus de formation des disciples. 1. Rappelez-vous que la compréhension et la maturité spirituelle sont un voyage de toute une vie. Les gens sont à des niveaux différents de croissance et de maturité. 2. La présence active du Saint-Esprit de Dieu est essentielle pour qu'un croyant devienne mature, 1 Corinthiens 3, 5-9. Nous devons travailler avec le Saint-Esprit pour faire avancer les gens sur le chemin, en leur donnant la liberté, la grâce, de grandir au niveau qu'ils ont choisi. 3. Reconnaître que le cheminement vers la ressemblance avec le Christ est un cheminement supernaturel. Philippiens 1h06, 2, 12-13, 3h12 et 4h11. C'est Dieu qui fait passer les gens de l'immaturité spirituelle à la maturité. Nous devons nous rendre disponibles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait changer le cœur des gens. 3. La formation de disciples est relationnelle. Les relations dans la vie réelle sont essentielles pour produire des faiseurs de disciples. Elle est personnelle et prend du temps. La formation de disciples est impossible en dehors d'une relation profonde et significative. 4. La formation saine de disciples est mauvaise. Les nouveaux convertis apportent des couches sales. Lorsque les gens commencent à grandir spirituellement, ils découvrent des zones de péché, ce qui est salissant. Lorsque les travailleurs commencent à partager leur foi, ils commencent eux aussi à voir leur égocentrisme. Vivre un style de vie basé sur la grande commission et les grands commandements, GC2, est un voyage désordonné, mais il est préférable d'avoir ce type de désordre que n'importe quel autre. Jésus avait l'intention de faire passer les gens de l'incrédulité à la maturité, de l'égocentrisme à l'application du grand commandement et de la grande commission en devenant des faiseurs de disciples. Il les a aidés à suivre le chemin de la formation de disciples d'une manière très stratégique. En tant que responsables, nous devrions développer un parcours de formation de disciples basé sur l'exemple de Jésus, puis aligner tous nos programmes de ministère sur ce parcours. Cela nous permettra de nous rapprocher de notre mission qui consiste à former des disciples qui font des disciples qui font des disciples.